Nous sommes de retour à la Charpente d'Amboise pour un plateau en direct avec Radio Campus et Radioactive. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h30 et on continue à accueillir au sein de ce plateau en fait donc les compagnies qui sont invitées. Nous sommes à présent en compagnie de Jean-Baptiste de l'ensemble Ptix et c'est Mélissa qui va s'en charger.
Bonjour Jean-Baptiste Appéré.
Bonjour.
Donc vous êtes directeur de l'ensemble Ptix et il me semble que cet objet musical non identifié existe depuis 2007 et qu'il comporte à son bord, disons, 30 membres non spécialistes des musiques contemporaines et que vous vous êtes nommé Ptix en référence au sonnet en X de Mallarmé. Donc je pense que cette question, tout le monde vous la pose à chaque fois, mais pourquoi Mallarmé? Donc est-ce que vous voulez nous dire en quelques mots, c'est quoi être un directeur d'ensemble mallarméen?
Alors c'est être là où on ne nous attend pas, et puis se dire que la poésie, finalement, dans la vie de tous les jours, ça peut servir. Donc nous, c'est plutôt de la poésie sonore, c'est-à-dire inventer des choses qu'on n'entend pas forcément, ou juste ouvrir les oreilles, être à l'écoute du monde qui entoure. Voilà, nous, on est aussi des descendants de John Cage qui disait, en fait, il y a juste à se mettre à un endroit dans la ville et écouter ce qui se passe, et c'est déjà une belle musique. Donc voilà, c'est ça qu'on propose, et le Ptix, ça veut dire un peu ce que chacun y trouvera. Voilà, c'est un objet vide, on y met ce qu'on veut, et nous, on y met plutôt de la musique.
Alors vous y mettez plutôt de la musique, donc l'ensemble Ptix, c'est des humains aux compétences multiples, puisqu'il y a des musiciens, et il y a aussi des techniciens, il y a des plasticiens, des artisans, voilà une joyeuse équipe. Et alors, pour l'ensemble Ptix, d'où vient cette envie, peut-être cette nécessité de mettre en scène la musique avec toutes ces compétences?
Alors, il y a plusieurs... plusieurs sources ou plusieurs ressources. Au début, en fait, on commence juste à jouer des musiques contemporaines, alors c'est-à-dire des musiques classiques d'aujourd'hui écrites par des gens qui sont encore vivants. Et puis, on s'aperçoit que le public, il y a eu à un moment une sorte de fracture avec ces musiques et qu'il est un peu déconnecté de ces esthétiques-là. Il les connaît pas, il les rejette même des fois. Donc on lui propose de rentrer dans ces musiques par... on va dire, on l'aide, c'est-à-dire on met un peu en scène pour qu'il s'y retrouve, alors soit avec du texte, donc c'est vrai que le chant ça aide souvent à rentrer plus dans des musiques, ou alors on fait une scénographie, ou alors on va travailler interdisciplinaire avec de la danse, du cirque, du théâtre, pour que voilà, on ait un objet qui soit pas un objet juste un concert de musique contemporaine, mais vraiment quelque chose de plus large et qui permette de mieux rentrer dedans.
Alors pourquoi elle a besoin d'être enrobée, cette musique contemporaine? Pourquoi elle a besoin d'être enrobée? Qu'est-ce qui fait qu'elle est intimidante peut-être pour certains publics?
Alors, elle est intimidante parce qu'en fait, elle a fait un peu l'impasse sur plein de choses qu'on aime bien dans la musique, qui est une pulsation bien régulière, genre du pumchak, qui est de la mélodie qu'on peut retenir et puis chanter sous sa douche. Et la musique contemporaine, bah, elle propose pas trop ça. Elle propose plutôt des sons un peu inédits, elle propose plutôt des ambiances qui ressembleraient plutôt, on va dire, bah, justement à de l'ambiante, des fois de la drone musique. Donc, en fait, elle lorgne sur plein d'esthétiques de styles musicaux d'aujourd'hui, mais sans vraiment être liée à des choses actuelles. Voilà. Alors nous, on se bat depuis des années pour dire que la musique contemporaine, c'est de la musique actuelle, qu'en fait, voilà, on se sent pas très éloigné du rock ou des courants électro. C'est juste que la différence, c'est que c'est des gens qui écrivent cette musique. Et en fait, souvent, on a eu une vision un peu rigoureuse et un peu disciplinaire des compositeurs, compositrices qui écrivent des trucs hyper difficiles qu'on n'arrive pas à entendre. Mais aujourd'hui, c'est fini ce temps-là. En fait, ils s'abreuvent de tout ce qui existe et ça fait des choses voilà, qu'on essaye accessibles.
Alors, ça veut dire que l'Omni Ptix doit être spectaculaire ou ne sera pas?
Alors, c'est une belle manière de le dire. C'est vrai d'un point de vue visuel, mais moi, je continue à me dire que ce qu'il faut, c'est déjà que ça parle aux oreilles. Et en fait, les oreilles, qu'est-ce qui est spectaculaire pour les oreilles? C'est bah, justement des choses qui vont nous raconter des histoires, qui vont aussi nous mettre dans des mondes imaginaires. Moi, j'adore regarder des films sans regarder les images, donc juste avec la bande-son, parce qu'en fait, ça me raconte quelque chose. Et nous, on espère aussi que juste en écoutant, on demande souvent au public d'ailleurs de fermer les yeux, que voilà, ça déclenche d'autres choses. C'est pour ça que souvent aussi, moi j'aime dire qu'on fait de l'émo classique en référence à de l'émo-core ou des courants actuels, parce que ce qui compte pour moi, c'est que ça déclenche quelque chose, une réaction. Voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est gagné. On n'aime pas, mais en tout cas, il se passe quelque chose à l'intérieur.
Il se passe quelque chose, alors est-ce que ça veut dire que Ptix avance masqué ? Est-ce que l'idée, c'est que ça, il se passe quelque chose chez les écouteurs, les regardeurs, les spectateurs ? Est-ce qu'il y a une...
Alors masqué, c'est vrai que alors c'est là où on rejoint Mallarmé. Nous, on aime bien les choses pas forcément hermétiques, mais en tout cas qui se découvrent pas du premier abord non plus. On aime bien gratter un peu. Je crois que aussi on est bien sur la substantifique moelle de Rabelais. On aime bien creuser au fond. Et je pense que le voilà, ce qu'on aime aussi avec les auditeurs, c'est qu'ils fassent ce chemin. C'est-à-dire ils vont avoir une première réaction et puis après bah il faut voilà un petit peu aller plus loin. Alors je sais pas si c'est une question d'être masqué, c'est plutôt une question de franchir les strates. Voilà, c'est comme je sais pas un millefeuille. Voilà, nous sommes un millefeuille sonore.
Un millefeuille sonore. Et alors entre le millefeuille sonore et se revendiquer de la musique actuelle, qu'est-ce qui est le plus efficace pour être programmé?
Je sais pas si je dois le dire. Là, je regarde qui est-ce qui est là. Non, c'est bon, Elsa est pas là. Elsa Maupeu du Cinavi. Nous, on cherche pas franchement à être programmé. On est content d'être programmé, évidemment. Et je devrais pas dire au jeu de diffusion. Voilà. Mais en fait, à rigueur, nous, on joue même si on n'est pas programmé. C'est-à-dire que, on a des formules souples. On va n'importe où. On joue. On a envie de jouer. Alors, le mot est un peu galvaudé. On l'a beaucoup dit, mais c'est essentiel. C'est-à-dire que, on se met sous un kiosque, on se met dans une forêt, même s'il y a 3 Pékins, c'est pas grave. Vraiment, pour nous, ce qui est hyper important, c'est de jouer. Donc, si on est programmé dans des bonnes conditions, on est content. Mais je dis ça parce que, en fait, il y a une majorité de choses qu'on fait dans le département, par exemple, sur lesquelles on est nous-mêmes organisateurs. Donc, on résout la question des programmés, puisqu'on se programme, on s'autoprogramme. Et ça nous permet voilà, d'avoir 20-30 personnes dans une ferme, dans une friche industrielle, dans un gymnase, au bord d'une piscine. Et voilà. Alors après, c'est la question économique qui se pose, effectivement, parce que des fois, on travaille sur des conditions qui ne sont pas complètement salarialement dans les clous, mais on l'accepte aussi parce que, de toute façon, nous, sinon, on s'ennuie à la maison.
Donc, ça veut dire que cette façon de travailler, ça fait quand même manger son intermittent ?
Alors, oui, et pour une certaine partie de l'équipe. Après, on est nombreux et dans une grosse partie de l'équipe, et c'est un vrai confort, on a aussi des enseignants. Et les enseignants, ils n'ont pas les mêmes contraintes. Donc, ils ont du temps, ils ont envie. Surtout aujourd'hui, ils ont envie de faire autre chose que 20 heures de visio avec des élèves où ils n'entendent rien à travers l'écran. Et en fait, du coup, ils sont dispo. Ils n'ont pas la contrainte d'avoir l'intermittence qui tombe à la fin du mois. Donc, c'est vrai que nous, ça, c'est une manne, on va dire, de ressources humaines qui est assez intéressante. Voilà. Et sur lequel on surfe depuis des années, en fait. On a une moitié à peu près de l'équipe qui est intermittente, une moitié qui est plutôt enseignante, enfin en statut en tout cas.
Voilà, ça fait penser, pour ceux, les amateurs de bande dessinée, je vous renvoie à David Snug, une excellente BD qui s'appelle « Je n'ai pas de projet professionnel ». Et voilà, et qui pose la question d'être intermittent ou plutôt prof quand on veut réussir, entre guillemets, dans les musiques actuelles. Voilà, je ferme cette parenthèse. Pour en revenir à l'ensemble Ptix, Jean-Baptiste Appéré, donc vous évoquiez tout à l'heure les ateliers itinérants, je crois que ça s'appelle même le cercle des musiques disparues. Qu'est-ce que vous aimeriez nous en dire ?
Alors moi j'aimerais bien savoir ce que ça vous raconte déjà, le cercle des musiques disparues.
Ça avait pensé à un certain film, voilà, les poètes, machin.
Voilà, et donc c'est vraiment juste l'idée de se mettre proche du public. Et de lui parler vrai. Alors parler vrai, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire que les œuvres ne parlent pas vrai. Ça veut dire que le public, devant de la musique, il lui manque des fois des mots. Et nous, dans cet atelier concert, ce qu'on essaye de lui offrir, c'est des mots que je distille ou qu'on a en échange avec un invité ou avec le public pour mettre des mots sur ce qu'on entend. Et en fait, à partir du moment où on franchit cette étape, on s'aperçoit que des fois les éditeurs ils ont juste envie de témoigner de ce qu'ils ressentent. Alors on le fait souvent à la fin du concert autour d'un verre, mais là pendant même le concert, de s'abreuver de ça. En fait, nous on adore cette formule, on en a fait 30 depuis 2 ans, on en fait un par mois, Et on rencontre vraiment des gens qui n'ont jamais entendu des choses comme on fait et qui ont des retours qui sont vraiment absolument profonds, directs, qui nous ébranlent d'une certaine manière. Et pour nous, c'est très bénéfique.
Est-ce que vous voulez nous citer quelques-uns des lieux où vous avez pu faire cette forme-là, montrer cette forme de travail?
Alors, on va voyager dans le département. On a fait des troglos à Villandry. On était à la pagode de Chanteloup il n'y a pas longtemps. On fait des hôtels un peu spa assez luxueux, comme le domaine des Tomo Amon. On aime beaucoup travailler avec les magasins de musique, Hall Music, l'Instrumentarium, qui ont des tout petits lieux, mais c'est assez approprié. On a fait beaucoup aussi de monuments historiques. Alors, monuments historiques, ça peut être une chapelle qui est très peu connue. On travaille aussi avec des habitants qui ont des fois un séchoir ou une grange, voilà, dans lequel ils ont envie de faire un truc. Voilà, et puis on a beaucoup travaillé à la Morinerie, voilà, à Saint-Pierre. Parce qu'en fait, nous, on part du principe que plus les endroits sont inadaptés à la musique, plus on y sera bien. Parce qu'en fait, il y a tout à imaginer.
Donc cette idée aussi de travailler autour de la frontière entre les musiques populaires et les musiques savantes, avec plein de guillemets, ça fait penser à Monsieur Luba, hein, voilà, grand joueur d'accordéon du Zest. Qu'est-ce que ça vous évoque, Bernard Luba ?
Moi, ça m'évoque la liberté d'une certaine époque. De se dire qu'on n'appartient pas à un courant, on n'appartient pas à une esthétique, on n'appartient même pas à un groupe. En fait, on se définit juste par ce qu'on fait sur le moment. Et ça me fait beaucoup penser à quelqu'un avec qui on travaille en ce moment, qui s'appelle Sylvain Cassap. Cassap, c'est un clarinettiste qui fait beaucoup de musique improvisée, free, etc. Et Cassap, qui est un peu notre maître à penser du moment, lui, il dit que, enfin, je sais pas si paraphrase Goldman, mais de toute façon, du moment que la musique est bonne, le reste, on s'en moque un peu. Et voilà, moi, je trouve que Luba, c'est ça, c'est cette chose-là de dire que qu'est-ce qui se passe sur le moment, quelle musique on partage, et peu importe à quel horizon esthétique se raccrocher. Le principal, c'est vraiment là et maintenant. Voilà, pour moi, Luba, c'est ça.
Voilà, et pour en rester sur Sylvain Cassap, il me semble aussi que vous travaillez en ce moment sur un opéra de poche. En tout cas, vous serez prochainement en résidence pour ce projet avec Sylvain Cassap.
On sera ravis, ouais, on va être accueillis dans plusieurs lieux, bah, entre autres au Théâtre Beaumarchais à Amboise, à l'Abbaye Noir-Lac, probablement à Issoudun. Et en fait, alors on ne sait pas si c'est un opéra de poche ou un opéra de pochetron. On va finir par le découvrir. Ce sera sûrement un peu les deux, parce qu'on est aussi des bons vivants. Et c'est pas parce qu'on fait des musiques des fois un peu prises de tête qu'on ne boit pas des coups, au contraire. Ce que je veux dire, c'est que l'opéra de poche de Sylvain Cassap, qui s'appelle donc WS, c'est pour nous aussi renouer avec voilà, une scénographie, un univers assez complet, prendre le temps, parce que une des choses qu'on partage avec les compagnies de théâtre, par exemple, qui sont ici, là, sur les jeux diffusion, c'est le fait de vraiment travailler en compagnie avec, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toute une armada de compétences, pas que des interprètes, au contraire, et donc de prendre vraiment des semaines pour faire ces créations-là. Donc, c'est ce qu'on offre à Sylvain. Et donc, ça devrait être décoiffant un peu, parce que c'est l'idée de revisiter Macbeth par le prisme de la prophétie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, l'information, qu'est-ce qu'on en fait, comment on lui donne une authenticité, comment on s'y fie, comment on la vérifie. Donc voilà, c'est ça qui est raconté dans Macbeth, et aujourd'hui, il me semble que c'est bien d'actualité.
C'est de l'éducation aux médias, alors ?
C'est plutôt de la contestation des médias.
Et alors peut-être, puisqu'on en est sur les événements à venir, peut-être quelques dates à nous indiquer sur le Cercle des musiques disparues. Je crois qu'il y en a à venir.
Exactement. On sera dimanche 23, donc ça doit être dimanche prochain, 23, on est à quel mois ? Mais au château de Gizeux, en Touraine-Nord-Ouest. Ça sera un cadre complètement magique pour accueillir une compositrice, Claire-Mélanie Zinhuber. Et puis, dans les dates que j'aimerais annoncer, du 12 au 15 août, à Neuville-le-Roi, on fait un festival pour la deuxième édition qui s'appelle Les Inentendus. Et on va y recevoir beaucoup de monde. Il y a une grosse programmation pendant 4 jours. Et je pense que c'est un moment pour les gens qui ne connaissent pas notre travail ou nos univers sonores de venir décontracter, partager ces expériences.
Et comme on a de la chance, Jean-Baptiste Appéré, vous nous avez choisi deux extraits sonores. Donc je pense que vous avez très envie de nous en dire un mot, puisqu'ils vont venir ponctuer cette belle émission Radioactive et Radio Campus.
Déjà, merci de nous avoir reçus, ça fait hyper plaisir. Alors, deux morceaux très différents. Donc, il y en a un qui est vraiment, c'est de la popounette écrit par Philippe Glass. On ne saurait pas que c'est du Philippe Glass, il y a des petites choses qui permettent de reconnaître. Mais surtout, c'est vraiment de la disco des années 70. C'est juste que c'est joué avec des instruments plutôt acoustiques. Donc, ça s'appelle Puppet Time et ça raconte des choses assez dures vues par Leonard Cohen au moment de la Shoah. Mais sur un rythme de disco, donc voilà, c'est intéressant. Et puis le deuxième extrait, c'est quelque chose qu'on entendra demain au jeu diffusion. C'est une pièce pour deux flûtes qui s'appelle Sable, donc c'est typique du travail qu'on fait avec des compositrices aujourd'hui, de Raphaël Biston. Et là, alors pour les oreilles non aguerries, vous allez entendre ces deux flûtes, mais en fait qui travaillent sur des tout petits intervalles, donc c'est assez perturbant au niveau de l'audition. Ça joue vraiment sur des illusions un peu acoustiques, donc faut juste se laisser bercer. Ça s'appelle Sable, ça pourrait s'appeler autrement, donc chacun y projette son imaginaire.
Merci Jean-Baptiste Appéré d'être venu sur notre plateau et je me tourne vers David qui va tout de suite de ce clic nous lancer une pause musicale. Alors je ne sais pas quelle œuvre tu as choisi, David. Puppet Time. Merci à tous.
Puppet punchers meet the dead. Puppet corpses, they are fed. Puppet wins and puppet waves. Puppet sailors in the graves. Puppet run, puppet stand. Puppet time.
Pantin que moi et pantin que toi, pantin allemand et pantin juif, pantin ces présidents qui ordonnèrent à des troupes de pantins de brûler les terres. Do